Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, à 5 jours de l'ouverture de leur Coupe du Monde, les filles de l'équipe de France de rugby piaffent d'impatience, hâte de découvrir la ferveur de la Nouvelle-Zélande pour le rugby, hâte de se mesurer aux Black Ferns et autres Red Roses, hâte surtout de savoir si elles pourront griller la politesse aux garçons et devenir la première équipe de France de rugby championne du monde de rugby. Beaucoup de questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec toute la bande des poteaux qui, une fois n'est pas coutume, s'intéresse donc de près au rugby féminin, discipline en plein développement et qui compte évidemment sur cette Coupe du Monde pour élargir cette audience. Dans quelques minutes, nous serons avec l'une des légendes des Bleus, Lénaïc Corson, l'ancienne deuxième ligne de l'équipe de France à 15 et à 7, qui a décidé l'an dernier de mettre un terme à sa carrière en bleu pour tenter l'aventure à l'étranger, en l'occurrence en Angleterre et au Wasp, avec elle nous parlerons de cette équipe de France très ambitieuse. La bande des poteaux, composée aujourd'hui de Wilfried Templier.
L'accent, je suis au top.
Le patron en personne est avec nous, Manu Massica, directeur des Midi Olympiques. Salut mon Manu, est-ce que tu vas aller faire un petit tour en Nouvelle-Zélande? Non, c'est plus de ton âge.
Non, c'est plus de mon âge, il y a trop d'avions. C'est Simon Valzer qui va couvrir pour nous la Coupe du Monde pendant... C'est 7 semaines de compétition.
Il y en a un qui est déjà là-bas pour nous, c'est Gauthier Baudin, notre correspondant donc en Nouvelle-Zélande, spécialiste du rugby féminin. Salut Gauthier.
Bonsoir messieurs, parce que chez moi il est 23h, pas loin là. Donc écoutez, très content d'être avec vous et de couvrir cette Coupe du Monde qui s'annonce assez sympa en tout point.
Eh ben on va se régaler parce que le rugby féminin c'est en plein développement. Voilà ce que ça donne.
À prendre ce ballon, elles avaient obtenu une mêlée à 5. Sur cette mêlée, bras cassés, ça avait été joué vite par la demi de mêlée française Laure Sansus. Et derrière, on a multiplié les phases de combat, les percussions pour aller finalement trouver l'ouverture.
Et les Françaises, pour l'instant, dominent cette rencontre, Paul Lafitte.
Ouais, Christophe, ce score de 19 à 6 acquis à la mi-temps avec 3 essais pour les Bleus qui vont peut-être en marquer un quatrième. Et là, un superbe passe de la demi de mêlée de l'équipe de France pour l'arrière tricolore pour le quatrième essai, Christophe.
Et l'essai au rugby, Fred Kelly, l'essai au rugby pour la France d'Anaël Dehaye qui est venu conclure enfin ce temps fort après une touche, un ballon porté et Anaël Dehaye qui a réussi sur une passe dans le fermé de Laure Sansus à aller aplatir.
Voilà cette Coupe du Monde de rugby qui va donc débuter samedi à Auckland en Nouvelle-Zélande. C'est vrai que quelques années après la Coupe du Monde masculine, on s'était régalé, nous étions tous là-bas avec Wilfried, avec Manu. Et ben on espère que l'engouement et la ferveur sera la même. Gauthier, parle-nous justement de cette ambiance en Nouvelle-Zélande. Est-ce que les Néo-Zélandais ont hâte de découvrir cette Coupe du Monde féminine? Est-ce qu'il y a de la ferveur et de l'engouement autour de la compétition qui s'annonce?
Bah alors la ferveur, elle est concentrée dans une zone, hein, vu que c'est pas comme la Coupe du Monde qu'il y a eu en 2011, c'est concentré sur une zone qui est à Auckland. Donc la ferveur est liée parce qu'on sent qu'avec les, il y a 35 000 personnes qui ont pris des places pour la première journée, ce qui est un, je crois, on double le record du dernier record de spectateurs. Mais dans les rues, pour trouver quelqu'un sous les affiches de promotion de la Coupe du Monde, c'est compliqué parce que évidemment, il y a le retour des touristes en Nouvelle-Zélande qui a été autorisé il y a très peu de temps. Et là, forcément, il y a beaucoup d'Allemands, d'Asiatiques, il y a beaucoup de touristes. Et pour trouver de la ferveur, je pense qu'il va plutôt aller falloir autour de l'Eden Park samedi matin pour vous et samedi soir pour moi.
Voilà, il y a même plus de Néo-Zélandais en Nouvelle-Zélande. Ah oui, là juste avant, juste en face du stade, ouais, exactement. On avait pris 17 kilos pendant cette aventure, mon cher Wilfried.
On s'était régalé à tout point de vue quand t'as dit ça, on s'est régalé, c'est vrai.
C'est vrai, Manu, Wilfried, quel souvenir vous gardez de ce pays et notamment de cette Coupe du Monde 2011? C'est vrai qu'il y avait une ferveur incroyable à ce moment-là pour le rugby masculin. Est-ce que on espère et on attend autant de ferveur pour le rugby féminin? On sait que la Nouvelle-Zélande est aussi maîtresse du rugby rugby féminin, enfin un peu moins maintenant, mais que ses homologues masculins. Qu'est-ce que vous attendez de cette Coupe du Monde, Wilfried?
Ce qui reste, tout en souvenant Christophe, c'est l'omniprésence du rugby là-bas, partout, dans les supermarchés, sur les murs, dans les conversations des gens. Le rugby est partout, dans les parcs où il y a des gosses qui jouent. C'est le sport roi, c'est une vraie passion qu'ont les Néo-Zélandais pour la balle ovale. C'est bien que la Coupe du Monde féminine soit là-bas. C'est le pays du rugby. C'est vrai que ça nous paraît, on va reparler, ça paraît un peu loin pour nous, notamment en termes de décalage horaire aussi. Mais le souvenir que j'ai, c'est vraiment de cette omniprésence. Vous pouvez pas tourner la tête sans voir quelque chose, une affiche, sans parler rugby. C'est quand même génial en Nouvelle-Zélande.
Exactement. Alors Gauthier, en Nouvelle-Zélande, tous les garçons, on le sait, touchent un ballon de rugby dès leur plus jeune âge. Est-ce qu'il en est de même pour les filles? Est-ce que les filles sont passionnées également par le ballon ovale?
Alors, de ce que j'ai vu, il y a des compétitions, vous savez, au collège, au lycée, des matchs. Et moi, j'ai vu une scène surréaliste. Je me suis cru dans un spot publicitaire World Rugby. Je me baladais dans la banlieue d'Auckland et j'ai dû voir quelques parents au bord d'un terrain avec une dizaine, vingtaine d'enfants, alors des garçons et des filles qui jouaient ensemble au rugby. Alors, je me suis demandé vraiment s'il n'y avait pas des caméras parce que ça semblait vraiment sorti d'un spot publicitaire. Donc, c'était assez drôle, ça m'a fait rire. Et c'est assez marqué comme sport féminin là-bas. Et en plus, récemment, la Nouvelle-Zélande a suivi la lancée de l'Angleterre en lançant le championnat national. Alors, ils appellent ça, c'est l'équivalent du super rugby à Aotearoa pour les hommes. Et là, ça s'appelle le super rugby à Aopiki avec 5 équipes qui s'affrontent. Et qui en même temps que le super rugby normal, je crois. Donc c'est une compétition qui, on espère, va redonner ses lettres de noblesse aux Black Ferns, qui depuis quelques temps ont quand même un peu plus de mal. Mais c'est quelque chose qui, moi, pour venir à la scène, ça m'a assez scotché. Je suis resté là 10-20 minutes. C'était assez impressionnant. Ouais.
Manu, dans le midi olympique, est-ce qu'on va consacrer une part importante des pages par semaine à la Coupe du Monde féminine? Comment vous allez appréhender cet événement?
Écoute, c'est un événement majeur pour nous puisque c'est hors compétition des garçons et il n'y a pas de concurrence au niveau international. Donc c'est le moment de pouvoir accorder à cette équipe de France une place plus importante, évidemment, comme on l'a fait pendant le tournoi avec le décalage du tournoi. Hein. Mmh. À chaque fois, c'est deux pages de présentation, deux pages par rendez-vous sportif, deux pages de retour, évidemment. Et puis sur le web, sur nos sites Rugby Rama et Midi Olympique, il y a également une grande part consacré à la compétition. Il faut se dire que c'est un rendez-vous très très important pour les filles. On sait que 30 000 personnes à l'Eden Park, ça fera pas le plein, mais c'est une journée de fête qui va mobiliser les Néo-Zélandais. Ils sont férus de rugby. On sait que les Black Ferns, c'est aussi une des vitrines du rugby néo-zélandais. Donc forcément ça va matcher. Ça sera pas un succès économique pour World Rugby puisque les places qui ont été vendues elles l'ont été pour la journée et non pas par match. Donc ça sera pas sold out sur l'ensemble des rendez-vous, mais c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de faire une grande fête du rugby féminin, de l'exposer. On sait, tu l'as dit.
C'est un enjeu pour vous, Manu, peut-être aussi.
Bien sûr que c'est un enjeu pour nous.
Vous suivez vos lecteurs certainement. L'ouverture vers les filles.
Mais bien sûr que c'est un enjeu pour nous. Après, on sait que la programmation des matchs à 3h du matin, ça va être difficile à suivre. On sait que les lives et les contenus, le direct sera difficile à suivre pour vous comme pour nous. Mais il n'en reste pas moins que cette équipe de France, elle est hyper porteuse, elle a une belle image et elle est dans le coup pour jouer le titre mondial. Donc on va suivre ces filles qui le méritent largement et on va mettre un dispositif en place assez puissant pour vous permettre de suivre, malgré le décalage horaire, cette compétition.
Alors Gauthier, raconte-nous justement en quoi va consister cette première journée samedi. Donc on le disait, match de l'équipe de France pour ouvrir la compétition. Ce sera à 3h15 du matin, donc faudra veiller ou alors pas se coucher. Enfin écoute Fried, on a pas encore décidé. Il y aura plusieurs matchs donc programmés. C'est pas un match d'ouverture, c'est une journée d'ouverture.
Ouais, c'est ça. C'est le programme, c'est un peu la spécificité de cette Coupe du Monde avec plusieurs matchs dans le même stade. Alors, l'Eden Park, ce sera uniquement pour le jour d'ouverture. On n'y reviendra pas avant les phases finales. Mais vraiment, le programme, c'est d'essayer de rassembler les spectateurs. Et là, entre ce que disait Manu, le chiffre des 30 000, ça a été annoncé il y a 2-3 jours, je crois. Et entre-temps, on est passé à 35 000. Donc, en 2-3 jours, ça a été rempli.
Le plus possible.
Ouais, alors, dans les quelques jours qui restent avant le match, on peut peut-être atteindre les 40 000 avec cette ferveur, avec le fait qu'on arrive à quelques jours et aussi le fait que les places sont vraiment attractives. Je crois que c'est $20 pour un adulte en étant de catégorie moyenne et vraiment catégorie incroyable, c'est $40. Ça vous fait 27-28 euros pour un match d'ouverture des Black Ferns ou de l'équipe de France ou de l'Angleterre. Donc c'est vraiment assez abordable. Et c'est aussi cette spécificité d'avoir plusieurs matchs dans le même stade la même journée, ça va suivre absolument toute la compétition en Nouvelle-Zélande.
D'accord, oui, ce sera des journées de compétition et non pas des matchs. Et dans les rangs de l'équipe de France, évidemment, on est plutôt surpris de l'engouement provoqué par cette Coupe du Monde. On écoute la réaction de Gaëlle Hermé, donc, que tu as rencontré, Gauthier, la capitaine de l'équipe de France.
C'est incroyable, c'est du jamais vu jusqu'à aujourd'hui et ça atteste clairement de l'évolution du rugby féminin. Et du coup, pour nous, ouais, c'est super. Et on a envie d'attirer encore plus de gens à venir voir des matchs de rugby féminin parce qu'on sait que l'évolution, elle est aujourd'hui réelle et elle est incroyable. En étant ici, dans un pays du rugby, voilà, on savait que l'événement, il serait attendu. Mais autant de monde, personnellement, moi, je ne m'y attendais pas du tout. Et ça, j'ai envie de dire que ça donne encore plus cette petite adrénaline pour samedi.
L'adrénaline est là, nous dit Gaëlle Hermé, la capitaine de l'équipe de France. Les Françaises qui affronteront donc l'Afrique du Sud pour ouvrir la compétition. Alors chez les garçons, c'est un redoutable adversaire. Est-ce qu'il en est de même chez les filles, Manu, Wilfried, alors je sais pas comment on les appelle.
Non, ils sont 11e au classement mondial. Hein. C'est pas les Springboks.
C'est les Springboks Women.
Les Springboks Women, c'est vrai.
Et c'est une équipe qu'on a rencontrée l'automne dernier, qu'on a battu 46-3 avant la double confrontation qu'on a eue contre les Black Ferns. Donc après le staff, les deux équipes ont changé beaucoup de choses, donc à voir. Mais
a priori c'est en dessous quand même. Voilà, on rencontre l'Angleterre dans la poule aussi.
Il y a une classe d'écart.
Parce que
quand
on dit Angleterre, Afrique du Sud dans la poule, ça fait un peu peur tout de suite. Mais c'est un ton en dessous quand même. Françaises et anglaises sont favorites.
Le mode d'emploi pour passer à la suite de la compétition, c'est terminé dans les deux premières de la poule, c'est ça, Gauthier?
Non, c'est pas. Enfin, c'est pas comme c'est trois poules de quatre équipes, c'est les deux premiers qui sont automatiquement qualifiés, et ensuite, deux meilleurs troisièmes qui sont qualifiés. Et en gros, ça fait un classement de 1 à 8.
Ouais, c'est un classement de 1 à 8, ouais, c'est pas des
écarts. C'est un classement de 1 à 8, donc c'est impossible à prévoir. J'en discutais avec le staff, c'est impossible à prévoir. C'est très pénible parce que chez les hommes, on a l'habitude de dire bon, on prend ça ou ça,
oui, bien sûr. Deuxième. Ouais, mais c'est pas plus mal finalement.
Et là, j'en discutais avec Thomas Darak qui lui, ils peuvent pas prévoir, quoi. Donc, la meilleure chose qu'ils puissent faire, c'est prendre un maximum de points et essayer d'éviter les têtes de série. Mais même ça, c'est pas prévisible, quoi.
Ouais. C'est-à-dire qu'on pourrait affronter l'Angleterre en quart de finale?
Oui,
absolument. Ça dépend de nos résultats, mais je crois que j'en discutais. Il faudrait que l'idéal, ce serait de terminer quatrième ou cinquième pour ne pas prendre l'Angleterre qui, normalement, je ne l'espère pas parce qu'on a un match contre la France en poule, devrait terminer première de notre poule C. Mais ça peut être assez handicapant pour la suite de la compétition.
Bon, mais c'est pas plus mal finalement de pas savoir quel sera notre adversaire en quart de finale. Déjà, faut-il se qualifier pour les quarts de finale. On va parler de cette Coupe du Monde de rugby avec une grande ancienne de l'équipe de France qui a passé 10 ans sous le maillot bleu et qui a décidé de prendre sa retraite internationale cet été et qui ne va donc pas participer à cette Coupe du Monde. Lénaïque Corson est avec nous en direct. Bonjour Lénaïque.
Bonjour.
Bon, Lénaïque, je disais, 10 ans de maillot bleu pour toi. Et donc là, à quelques mois de l'échéance, tu décides de prendre ta retraite internationale. Explique-nous déjà les raisons et savoir si ça ne va pas te manquer justement de ne pas participer à cette compétition au pays du rugby.
Je vous entendais depuis tout à l'heure et c'est vrai que déjà, merci de pouvoir rendre visible cette Coupe du Monde. On en a besoin, on a besoin des médias aujourd'hui pour faire évoluer le rugby féminin. Gaëlle en a parlé, il y a beaucoup d'attentes des supporters, mais il faut aussi que les médias soient là pour relayer et montrer que le rugby féminin existe bien en France et qu'on ait davantage de jeunes filles et de jeunes garçons motivés à rejoindre les rangs à la rentrée. Oui, forcément, forcément déçu de ne pas y être. C'était un objectif que je m'étais fixé. L'objectif, c'était de jouer la Coupe du Monde en 2021 et de prendre ma retraite ensuite. Malheureusement, elle a été reportée dû au Covid, ce qui a dû changer un petit peu les plans. Le staff a également changé à un an de la Coupe du Monde. Voilà, avec des volontés différentes du staff de plutôt faire jouer des jeunes joueuses plutôt que des anciennes. Et voilà, c'est la loi du sport. Malheureusement, il faut l'accepter. Il faut surtout aller de l'avant. Et c'est ce que j'ai tâché de faire. Et moi, j'étais pas prête à prendre ma retraite. Et je voulais toujours continuer à jouer à très haut niveau. Et donc, du coup, j'ai fait le choix de partir en Angleterre. J'ai eu des superbes opportunités qui m'ont été proposées. Et voilà, feu. Aujourd'hui, je suis dans un des championnats les plus attractifs au monde. Donc, à moi de continuer à jouer à haut niveau et de performer. C'est ce que je veux toujours faire.
Donc, tu es parti chez les Wasps. Hein, tu as quitté le Stade français. Est-ce que le championnat va se dérouler durant la Coupe du Monde ou on va couper tout ça et attendre de savoir ce qui se passe et comment justement les Anglaises attendent cette compétition, elles qui sont les grandissimes favorites, les Neiges?
Oui, complètement. Aujourd'hui, elles sont extra favorites. Clairement, les moyens financiers, humains ont été mis en place pour les Red Roses. Donc, on voit qu'aujourd'hui, elles ont des contrats pro au sein de l'équipe nationale, mais elles ont aussi des contrats semi-pro dans les clubs. Donc, ce qui change en fait toute la donne comparée à la France. Aujourd'hui, les Françaises qui ont des contrats pro évoluent dans un championnat qui est, lui, amateur. Donc, jouent tous les jours avec des filles qui ont des contraintes professionnelles, qui ne s'entraînent pas autant, qui ne font pas autant de musculation. Donc, n'ont pas des corps aussi adaptés peut-être à la pratique à haut niveau, comparé à l'Angleterre qui, elles, justement, ont commencé à mettre déjà plusieurs choses en place. On voit qu'il y a vraiment un environnement très professionnalisant autour des joueuses et dans les clubs, ce qui, du coup, change la donne et qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, voilà, c'est un des championnats, le championnat anglais est le meilleur au monde.
Ouais. Elles sont mieux rétribuées, les Anglaises. Et puis, on parlait de 3 à 4 000 euros pour les internationales françaises avec le salaire pris en charge à 80% par la Fédé. Est-ce que c'est encore plus chez les Anglaises?
Non, c'est à peu près les mêmes salaires, voire les Français sont un petit peu mieux payés. Mais voilà, aujourd'hui, peut-être qu'avec la Coupe du Monde qui va se dérouler, et oui, on sait qu'elles sont extra favorites, et je pense que ça serait vraiment une énorme déception et une catastrophe pour les instances dirigeantes anglaises si les Anglaises n'étaient pas championnes du monde. Peut-être qu'elles auront une rétribution supplémentaire à la fin de leur Coupe du Monde. En tout cas, aujourd'hui, ils mettent les moyens, pas uniquement que sur les internationales, mais aussi sur tout le rugby féminin anglais. Et c'est ça la grosse différence aujourd'hui. Ils ont quand même un plan, une vision stratégique pour le rugby féminin. Objectif 2025, 100 000 joueuses de rugby, ce qui est énorme. 2025, il faut savoir que ça va être la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en Angleterre, avec une finale prévue à Twickenham. Donc aujourd'hui, on sent que voilà, ils ont sorti l'industrie lourde, les Anglais, au même titre que dans le foot féminin. J'ai assisté à un match d'Arsenal. C'était incroyable de voir qu'il y avait 57 000 billets vendus pour un match de championnat féminin. Le
oui,
premier
c'est-à-dire
de l'année.
C'est pas fake juste du tout. Il y a le public qui vient, il y a les audiences qui sont bonnes, les influences qui sont bonnes. Les Nike, c'est pas uniquement pour essayer de faire développer le rugby féminin. Il y a un vrai engouement autour de ça.
Alors là, je parlais de foot, évidemment,
ouais,
de 56 000 personnes. On espère qu'un jour, on arrivera à faire la même chose chez les joueuses de rugby. Et voilà, en fait, le rugby féminin, c'est pas « Ok, demain, on décide de développer ». C'est une vision qui est sur du long terme, sur 10 ans. Donc, ils ont un plan stratégique sur 10 ans, step by step, année après année. Ils doivent passer à un certain nombre d'objectifs fixés. Et aujourd'hui, bah voilà, on se retrouve avec des contrats semi-pro pour les joueuses, davantage de moyens, un contexte que je disais très professionnalisant, c'est-à-dire aujourd'hui en France, on n'a pas les mêmes le même staff. Aujourd'hui, j'ai un staff, ils sont 10. J'ai deux kinés. À 4 heures, si j'ai envie de faire des soins kinés, je peux le faire. En France, il faut que j'attende une demi-heure avant l'heure d'entraînement pour pouvoir être soignée par un kiné. Donc, en fait, c'est pas du tout la même approche. Et puis, il y aura un kiné. Là-bas, ils en ont deux. J'ai envie d'aller voir mes vidéos d'entraînement. Je peux avoir accès. En France, il n'y a pas du tout... les entraînements ne sont pas filmés. Donc, en fait, c'est tout un écosystème qui est hyper professionnalisant et qui pousse à la performance. Et en fait, aujourd'hui, si les Anglais sont aussi performantes, OK, ils y mettent les moyens dans les clubs et aussi dans la visibilité de leur sport.
Juste à titre de comparaison, elle parle d'objectif 100 000 licenciés en Angleterre. Il y en a un peu plus de 26 000 en France. Et pourtant, sur les deux dernières années, c'est en progression de 20% quasiment. Donc voilà, pour avoir la comparaison.
Bien sûr, mais on sait aussi tous les faits que peut avoir une Coupe du Monde dans un pays. En 2025, la Coupe du Monde a lieu en Angleterre. Et c'est là que ça peut encore booster, au même titre que l'Euro de foot féminin.
Manu, c'est vrai qu'en matière de foot féminin, on a l'impression que la France a été moteur dans le développement. On avait les plus grandes équipes européennes bien avant les Anglaises. Là, on a l'impression quand même dans le rugby féminin, ce sont les Anglaises et les Anglais qui sont largement devant nous, même s'il y a des progrès qui ont été faits, que la Fédération française de rugby a quand même mis des moyens. Mais on est quand même à la traîne de l'Angleterre.
Ouais, on n'est pas très très loin non plus. On regarde sur les salaires des internationales. Je voulais demander à Hélène Haïg comment les non-internationales vivaient. Est-ce qu'elles étaient professionnelles à 100% ou est-ce que c'était de la plus réactivité? Et puis en France, on voit bien qu'aujourd'hui, ça devient une priorité. On sait que Ligue et Fédération sont en train d'essayer de voir comment structurer et développer un championnat professionnel. On ne sera pas loin. Je ne sais pas si on sera à 100 000 licenciés, je l'espère, en 2025, mais on sent vraiment qu'il y a un allant très très fort du côté du rugby féminin en France aujourd'hui.
Alors, l'Angleterre, grandissime favorite.
Attends les battre.
Ouais, les Naïgs, tu les as affrontés souvent, les Red Roses, avec ce jeu assez stéréotypé, mais très efficace. Est-ce qu'elles sont quand même prenables, ces diablesses d'anglaises?
C'est vrai que c'est compliqué de le dire après, je crois, 10 défaites d'affilée contre les Anglaises. Et j'ai l'impression que dans le passé, il y a eu des défaites qui étaient vraiment très courtes contre les Anglaises. Mais aujourd'hui, on sent tellement que que la locomotive est lancée et que ça va être difficile de l'arrêter. Que oui, aujourd'hui, ça va peut-être être compliqué de les battre en poule. Elles marchent sur tout le monde. Elles ont des joueuses incroyables, des meilleures joueuses du monde, plusieurs joueuses meilleures joueuses du monde dans leur équipe. On sent que, pour avoir regardé un petit peu leurs vidéos de préparation, qu'en fait, tout le monde est 100% focus dans le projet d'être championne du monde. Et c'est la régularité aujourd'hui, pour moi, qui paye en fait le résultat, le travail de plusieurs années. On l'a vu, 25e victoire d'affilée des Anglaises. C'est juste, dans le milieu du sport, une l'hégémonie la plus complète. Et elle marche pour tout le monde. Et tout le monde est dans cette optique d'être championne du monde. Elles l'ont vécu assez mal de perdre justement en 2017 la Coupe du Monde face aux Néo-Zélandaises. Donc on sait qu'aujourd'hui, elles sont préparées pour ça.
Dis-moi, Léna Higg, la meilleure joueuse du tournoi à destination féminin l'année dernière, elle n'était pas française?
Oui, oui. Non, mais on a je vais le rappeler quand même, on a d'extrêmes bonnes joueuses en équipe de France. Je pense à Jessie Trémoulière qui a aussi été meilleure joueuse de la décennie. Laure Sansus qui, en ce moment, deux dernières années, a été vraiment incroyable. Pauline Bourdon qui est une excellente joueuse. Romane Ménager qui a été aussi élue dans les équipes types de la Coupe du Monde. Anna Eldea également en 2017. Safi Ndiaye qui fait partie aussi des gros calibres de cette équipe. Caroline Drouin, vice-championne olympique, vice-championne du monde avec l'équipe de France A7. Donc oui, aujourd'hui, on a une superbe équipe. Le tout est de trouver justement cette fluidité, cette mixité sur le terrain qu'on a eu un peu du mal à trouver face à l'Italie. C'est vrai que le match au warm-up nous a tous un petit peu déstabilisés, déçus même, on peut le dire, parce qu'on attend la France avec de gros objectifs. L'objectif, c'était d'être championne du monde. Donc, devoir perdre contre l'Italie à un mois de la Coupe du Monde, forcément, ça nous a un peu déplu. Mais bon, on sait aussi que sur une Coupe du Monde, tout peut se passer. Des fois, on va peut-être commencer doucement pour terminer gros. C'est ce qu'on espère.
Exactement. Alors,
je te rassure, les Naïgles, elles ont fait une opposition samedi contre l'Australie. Le match contre l'Italie, c'est vraiment autre chose, hein, parce que ça a été une leçon pour les Australiennes pendant les 3 mi-temps de 15 minutes. J'ai rarement vu une telle domination devant de la part des Françaises, et je trouvais ça assez réconfortant par rapport à ce qu'on avait vu contre l'Italie.
J'ai entendu ça aussi, donc c'est pour ça que j'ai de l'espoir.
Bon, on a tous de l'espoir, évidemment. Les Anglaises, qu'en pensent-elles justement de cette équipe de France? Les Anglaises qui, on le disait, restent sur 10 victoires d'affilée contre l'équipe de France. Est-ce qu'elles vont nous infliger une correction? C'est pas le genre de la maison de le dire en tous les cas. Écoutez ce qu'en pense Sarah Hunter, la capitaine de l'équipe d'Angleterre.
You come to a World Cup and everything goes out the window, like past results mean nothing.
Notre série de victoires contre elles, ça ne veut rien dire. Il n'y aura que la vérité du terrain ce jour-là. Seul le résultat comptera. L'historique des confrontations ne veut pas dire grand-chose dans notre compétition et on sait très bien cela. Et je suis sûre que la France le sait aussi. Cette rencontre va être un match de rugby incroyable. Pour les spectateurs, ils auront devant eux deux équipes très très fortes qui vont vouloir gagner plus que tout et jouer les premiers rôles de la Coupe du Monde.
Voilà,
c'est
cette
bon, ça, hein,
rencontre.
Du crunch en Coupe du Monde.
Ah, du crunch et les filles, c'est
et
pas mal.
Et en plus,
hein.
À 9h du matin.
Ah oui, alors oui, ouais, matin, on ne sera pas obligé de se lever à 3h du matin.
Non, en fait, il n'y a que le match contre l'Afrique du Sud qui est à 3h15. Ensuite, c'est 9h du matin un samedi et un autre 8h du matin l'autre samedi.
Bon. Les Naïcs, ça va chambrer avec tes coéquipières anglaises là pour ce match entre la France et l'Angleterre. Ah, est-ce que ça va faire pareil que pour le crunch masculin?
Et en plus, je vis quand même avec une des joueuses qui joue en équipe d'Angleterre, qui a malheureusement pas été prise pour la sélection, la sœur de Poppy Cleal qui joue numéro 8 en équipe d'Angleterre. Donc oui, en plus les Anglais sont très sarcastiques, donc oui, je m'attends à...
Ouais, c'est pareil chez les garçons et chez les filles, hein. C'est dans les gènes, ça, hein, c'est dans les gènes.
Hein. Elles branchent sur le terrain, les Anglaises, là
aussi.
Elles branchent sur le terrain, les Anglaises, elles branchent sur le terrain un peu, ça parle,
ouais,
ça dans la bouche un peu entre les filles.
Ça n'arrête pas.
Ah ouais.
Ouais.
Mais est-ce qu'il n'y a pas du côté
mais
français
joue
un petit souci
aussi, hein,
ouais, j'imagine. Et puis elle n'est pas de genre à se laisser influencer. Elle est naïve, elle est costaud.
Juste
quand même. Pas se laisser embêter, marcher sur les pieds quand même.
Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème psychologique face aux Anglaises de la part des Françaises avec beaucoup de défaites de peu de points sur des fins de match? Est-ce qu'il n'y a pas un petit complexe au bout d'un moment?
Sincèrement, je pense pas, parce que on joue ce match comme une finale de la Coupe du Monde, en fait, parce que on sait qu'aujourd'hui c'est les meilleurs au monde, on sait le passif qu'il y a entre nos équipes, on peut pas faire abstraction du passif, et justement on a envie d'arrêter cette série de défaites. Et puis elles sont assez arrogantes sur un terrain, elles vont chercher à nous retenir par le maillot, à chercher un peu à ce qu'on se fight, tu vois, sur le terrain. Et ce qui peut d'ailleurs nous provoquer, faire provoquer des mauvais gestes sur le terrain qui sont visibles de tous. Alors que elles savent très bien le faire en douceur et sans que personne le voie, ni même l'arbitre. Donc elles sont
C'est incroyable parce qu'on retrouve les mêmes caractères chez les garçons, chez les filles. D'ailleurs, les Anglaises qui sont sarcastiques, qui se moquent, qui chambrent, les Françaises qui ont du mal à résister à la tentation d'ouvrir la boîte à gifles. Finalement, c'est la même chose chez les garçons, chez les filles. C'est les jeunes qui veulent ça. Merci les Naïcs d'avoir été avec nous. On te souhaite une bonne Coupe du Monde de ton côté en Angleterre. On espère surtout que tu vas pouvoir chambrer tes coéquipières pendant cette semaine, notamment. Après ce match entre la France et l'Angleterre, c'est le 15, hein, c'est ça Gauthier, pour ce crunch franco-anglais, hein, c'est le 15 octobre.
Le 15 octobre, 9h du matin, ça va être un délire.
Eh ben, ça va être génial, on te souhaite de vivre ça aussi de ton côté avec un gros engouement. Merci également à Manu, donc on attend de lire dans Midi Olympique plein de beaux papiers sur le rugby féminin.
Ouais, le plus longtemps possible, hein,
on compte sur vous, hein.
Jusqu'au mois de novembre.
Voilà.
Ça voudrait dire que les filles ont fait une super Coupe du Monde et on en a tous besoin, et surtout elles, parce qu'elles le méritent.
Et c'est très important, les matchs, on l'a dit, Christophe, tout au long du week-end, vont être diffusés comme sur TF1, ouverture grand public, comme le disait les Naïcs, pour les petites filles qui vont regarder l'équipe de France, voilà, les amener
et
sur
les
le terrain.
Garçons.
Et les petits garçons aussi, mais bon, c'est vrai que... Voilà,
d'ailleurs, les petites filles et les petits garçons à 3h15 du matin, je ne sais pas si on va les laisser regarder.
Non, mais bon,
les, ça, c'est un peu
à 9h et 8h, sera peut-être.
En replay. Très bien, merci beaucoup. La Coupe du Monde de rugby, donc à partir de samedi, vous la suivrez également sur RMC avec Gauthier Bodin, notre correspondant. Bonne semaine, merci les Naïcs, merci à tout le monde, et à la semaine prochaine.
Merci.
Salut.